Le club de la presse, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, à partir de 11h sur Canal FM.
Beaucoup de choses ont évolué, mais il reste des défis à relever.
Qu'est-ce qu'il y a de plus merveilleux, qu'est-ce qu'il y a de plus riche pour l'homme, l'être humain, que la liberté?
Ce dépotoir a été fermé parce que
nous mettons l'accent sur la couleur du bon miel. Les gens se posent cette question.
Tous les services qui accueillent,
on ne voit pas circuler les bêtes comme ça.
Ils sont censés défendre la veuve et l'orphelin.
Et quand il y a quelque chose, votre carrosserie, c'est votre peau.
Donc du coup, je pense véritablement que
il ne faut pas perdre du temps sur des revendications, excusez-moi, qui n'en valent pas la peine.
Les gens se lèvent le matin à 7h, ils disputent la route avec les gros camions.
Les surcharges sur les tricycles, on en voit tous les jours.
Actualité politique, art, culture et sport, société, croissance économique, santé, éducation, environnement, développement durable. Tout le Togo au quotidien des grandes villes et localités les plus reculées. Canal FM, la radio qui est plus proche de vous.
Je suis très heureux de vous retrouver sur la nouvelle génération. Il sonne 11h, vous comprenez que vous avez rendez-vous avec l'actualité, hein, bien sûr, l'actualité avec son décryptage et aussi son analyse, et c'est dans le débat du Club de la Presse. Merci de nous recevoir, merci d'être toujours fidèles. Nous sommes au mardi 18 juin 2024 et merci de répondre présent à ce rendez-vous alors de Club de la Presse, bien sûr, deuxième numéro pour le compte de cette semaine. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Thomas Etek, aussi d'ATV, assure la mise en onde. Jérôme Dakouta est à la mise en ligne. Je suis Pascal Losso au micro. Merci à vous tous qui nous suivez partout au Togo, grâce à nos radios partenaires, Radio Lumière à Nekho, Radio La Paix à Takpamé, Sky FM à Badou, Central FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassara, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaan. Vous pouvez également nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales et aussi nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Les Bénins. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, le débat et l'analyse de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi. Déjà, premier confrère journaliste qui a répondu à notre invitation, c'est Adam Andronou. Adam, bonjour.
Bonjour Pascal, merci de m'avoir invité. Bonjour à toutes celles, à tous ceux qui nous suivent actuellement sur le 93.5.
Adam, bien passé, enfin bien commencé même d'ailleurs la semaine, je pense bien.
Oui, bien évidemment, à partir du moment où il y a le souffle de vie, on rend grâce à Dieu.
Je pense que c'est l'essentiel, quand nous avons le souffle de vie, nous devons aussi dire merci à Dieu pour ce souffle de vie.
Naturellement, au-delà, en dépit des difficultés quotidiennes de la vie, où c'est pas toujours évident, il faudrait quand même qu'on rende grâce à Dieu. Et nous ne le faisons pas suffisamment assez, nous avons des préoccupations surtout liées aux activités professionnelles, etc. Mais je pense que ça vaut la peine à un moment donné qu'on marque des positionnements pour rendre grâce à Dieu pour ce souffle de vie-là, qui est très important.
Tout à fait. Et nous faisons un clin d'œil à tous ceux qui sont dans les hôpitaux, les centres hospitaliers, hein, et qui nous suivent actuellement et qui souffrent alors d'un quelconque maladie ou d'une pathologie. Alors nous leur faisons un clin d'œil en passant, bien sûr, dans cette émission. Alors, c'est vrai, nous commençons cette émission souvent avec la culture, puisque nous sommes au mardi, et vous comprenez sans doute que des sujets de culture sont là dans la presse aujourd'hui. Et donc, nous allons en débattre, mais je ne le laisse pas s'installer d'abord avant de lui souhaiter la bienvenue.
Bonjour Pascal, bonjour chers amis, bonjour chers amis auditrices et auditeurs de Canal FM.
J'espère que tu vas bien.
Bien, merci, ça va.
Et justement, ce n'est pas dans ton habitude quand même d'être en retard. Non. Je ne sais pas ce qui s'est passé.
La voix était un peu saturée et il fallait faire des détours pour pouvoir arriver. Là, toutes mes excuses pour ce retard.
Voilà, c'est indépendamment de ta
volonté.
Voilà, la formule sacrée est observée. Alors, Adam, je parlais alors de la culture, puisque nous sommes au mardi. C'est vrai que mardi, nous débattons de la culture pour commencer cette émission, bien sûr. Alors, dans votre journal aujourd'hui, journal Vision d'Afrique, vous titrez déjà à la page 4, le Togo lance un nouveau projet pour dynamiser son secteur touristique. Concrètement, de quoi s'agit-il?
Vous savez, le Togo, dans ses ambitions, ou l'exécutif togolais, a essayé d'initier pas mal de projets allant dans le sens de la culture, bien évidemment, mais qui parle également de la culture, parle du secteur du tourisme. Et vous comprenez bien évidemment le pourquoi. Les deux sont logés pratiquement dans le même cabinet ou le même département ministériel. Et ces projets-là sont légion, une succession de projets qu'on ne saurait énumérer. Mais le dernier en date, après bien évidemment l'autre semaine, nous avons eu la chance d'assister au lancement, en tout cas de ce projet-là concernant donc le cinéma. La semaine dernière également, il y a eu le lancement d'un projet qui est intitulé « Amélioration des capacités entrepreneuriales des acteurs du tourisme pour la compétitivité du tourisme togolais ». Donc, qui a été lancé, et ce projet en partenariat naturellement avec la Turquie. Vous savez, aujourd'hui, la Turquie est un acteur majeur dans le secteur où le Togo veut véritablement donc intégrer ce corpus-là donc dans ses ambitions touristiques. Et durant 4 ans, donc, ces acteurs-là auront la chance d'être formés, aussi bien à l'interne, mais également ils auront la chance de voyager sur la Turquie pour cette interaction en ce qui concerne donc les projets touristiques turcs et togolais. Donc, grosso modo, c'est de ça qu'il s'agit en ce qui concerne donc ce projet qui va porter un plus dans les interactions, comme je le disais, touristiques entre Ankara et Lomé. Et donc, c'est une initiative qui s'inscrit dans la volonté, comme je le disais, du Togo, d'intégrer le tourisme au cœur de ses relations de coopération. Voilà un peu ce que c'est que ce
D'accord. Et Eric, est-ce que déjà, quand on prend le secteur du tourisme au Togo, est-ce que vous avez vraiment l'impression que ce secteur est en plein essor ou ce secteur avance?
Alors, il faut dire quand même que le secteur du tourisme au Togo est en train de dégringoler. Il ne faut pas le nier. Parce que dans les années 80-90, le tourisme togolais était au firmament. Je veux dire par là que le Togo accueillait...
Mais quand vous parlez de dégringoler, c'est à cause de quoi?
Mais il y a eu beaucoup de situations. Il faut parler d'abord de la crise politique dans le pays et dans les années 90 qui n'ont pas permis, ces crises-là, politiques, n'ont pas permis aux touristes de venir dans le pays. Les touristes ont commencé à prendre un peu de recul. Il y avait même des agences de tourisme qui disaient dans le temps que les gens ont... rejeter leur réservation pour passer leurs vacances ou pour venir visiter le pays. La seconde problématique, c'est les crises sanitaires que nous avons eues également.
Vous voulez parler de Covid?
De Covid...
Covid-19. Voilà.
Qui a un peu également freiné l'essor de notre tourisme. Je dis aujourd'hui, il faut le reconnaître, des efforts sont en train d'être faits. Mais en réalité, ces efforts-là sont insuffisants. D'abord, nous avons un problème au niveau de l'accueil. Quand je parle de l'accueil, c'est les hôtels. Les hôtels qui ne sont plus en nombre suffisant et qui ne sont plus de cette qualité d'antan. Vous avez vu que le ministre, l'actuel ministre de la Culture et du Tourisme, quand il est arrivé, il a fait une tournée pour visiter tous les hôtels, d'abord publics, dans le pays, et j'avoue que son bilan qu'il a présenté est ahurissant. En ce sens où les chambres qui devaient accueillir les gens ne sont plus en bon état, les infrastructures sont complètement dégradées, et là, il a demandé, ou il a essayé quand même de faire le point et de commencer par chercher des moyens pour restaurer ces hôtels et ces centres d'accueil des touristes. La preuve, il y a l'hôtel Le Roc à Tapamé qui a été complètement rénové. Il y a l'hôtel du 30 août à Palimé également. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que d'abord le tourisme local n'est pas tellement développé, ce qui fait que ces hôtels-là, en période de lente, oui, par exemple, où il n'y a pas beaucoup de touristes, mais ces hôtels-là ne travaillent plus. Et par conséquent, les gens sont obligés de fermer ou de faire le service minimum. Au-delà de cela, il faut aussi parler du personnel. Le personnel qui n'est pas forcément bien formé pour accueillir les touristes. J'avoue que vous allez dans certains hôtels, on en a parlé, je crois, l'année dernière ici, par rapport à l'hôtel du Grand Hôtel de Central, où on était avec Sam Djobo et Isidore Akola, on en avait parlé. Franchement, quand vous regardez un peu la façade, vous vous dites que vous êtes dans un hôtel. Mais quand vous pénétrez les chambres, les salles de réunion, les salons et tout ça, vous vous rendez compte qu'en réalité, franchement, c'est pas à niveau. Et donc, je dis aujourd'hui, le ministère est en train de faire des efforts louables, comme ce qui vient de décrire le lancement de ce projet-là. Je crois que c'est ce qu'il faut aujourd'hui pour redonner vie à notre tourisme.
D'accord.
Il ne suffit pas aussi d'avoir des centres d'accueil, des hôtels, etc. Mais il faut aussi avoir des infrastructures routières qui nous amènent vers les destinations où les gens peuvent aller découvrir beaucoup de choses. Je crois que c'est l'année dernière également où on a découvert qu'il y a une cascade dans le Mont. Et j'avoue que tout le monde a apprécié cette cascade-là en disant que c'est peut-être la plus grande de la sous-région. Mais l'accès à cette cascade-là est vraiment difficile. Je pense que il faut aussi faire des efforts au niveau des infrastructures routières et des infrastructures hôtelières pour voir que
accéder à ces infrastructures. Merci beaucoup, Eric. Il y a notre confrère Jean-Baptiste Attisso qui nous a rejoint. Jean-Baptiste, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour aux auditrices et auditeurs de Canal FM.
Voilà, Jean-Baptiste, nous sommes en train de parler alors du tourisme au Togo. Et vraiment, il y a un projet qui a été lancé. Il y a notre confrère Adam qui nous en parlait tout de suite. Mais nous sommes en train de faire une analyse alors sur le tourisme même au Togo et également son développement au Togo. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui se fait? Puisque déjà, Eric nous parlait alors du fait qu'aujourd'hui, le tourisme a dégringolé, il y a beaucoup de choses quand même qui ne vont pas. Et aujourd'hui, pour vous, quelle est cette impression que vous avez alors sur notre tourisme, bien sûr, au Togo?
Je crois que je vais quand même apporter de l'eau au moulin de mon aîné Eric. Quand il parle du dégringolage du tourisme au Togo, la preuve, on peut quand même citer, entre autres, les hôtels qui sont en pleine capitale, qui sont abandonnés, l'hôtel de la paix, qui est, dont les infrastructures sont maintenant inhabitées depuis plusieurs décennies, et ça ne dit rien à personne. Et à l'intérieur, il y a plein d'hôtels qui sont laissés aux abandons bien avant l'arrivée de l'actuel ministre du Tourisme et de la Culture, qui, ma foi, avec son arrivée, a fait quand même feu de sous-bois pour aménager certaines de ces infrastructures hôtelières. Mais aujourd'hui, force est de constater que il n'y a pas vraiment de la motivation réelle ou bien de la volonté politique pour accompagner le secteur du tourisme.
Disons qu'il y a des efforts qui sont faits, déjà avec l'arrivée du ministre.
Oui, bien sûr,
est-ce que ça ne veut pas dire qu'au moins il y a une volonté?
Oui, une petite volonté, parce que quand je parle de réelle volonté, c'est que la réelle volonté doit partir du budget, de l'allocation qui est faite à ce département ministériel, pour qu'on sache réellement que vraiment on veut que ce secteur connaisse
la volonté en question, c'est au niveau étatique et pas au niveau du ministère, c'est ça?
Non, oui, au niveau étatique, pas seulement au niveau du ministère. Si peut-être le ministère, on ne sait pas s'il plaide vraiment pour que sa dotation soit vraiment élevée, on ne sait pas trop, mais ce que nous constatons, c'est que si nous nous référons au budget successifs, on voit que il y a beaucoup de ministères qui reçoivent la part du lion dans le quand on se réfère au budget global du pays. On voit qu'il y a certains ministères qui regorgent jusqu'à 15%, 20% du budget de l'État, mais peut-être quand on compare ça, ce pourcentage avec celui du ministère du tourisme, je crois que c'est 0,% Donc ça fait que il n'y a pas vraiment une réelle volonté pour pouvoir accompagner ce secteur en ce qui concerne la réfection des infrastructures étatiques qui sont dans le pays, et aussi ce que on pourrait appeler la réelle promotion de ce secteur.
Là aussi, on ne vous dira pas que les priorités sont ailleurs.
Bon, les priorités sont ailleurs, mais je crois que le tourisme est un maillon important de l'économie d'un pays. Si on se réfère à d'autres pays, je crois que le secteur du tourisme n'est pas à négliger. Ça apporte beaucoup de ressources à l'État. Mais si ici, dans notre pays, on essaie de minimiser l'apport du tourisme au budget de l'État, je crois que c'est une fausse lecture que le gouvernement est en train de faire à ce secteur. Sinon, si on veut comparer peut-être le Togo à d'autres pays, par exemple l'Égypte, que je connais un peu mieux, c'est que le secteur touristique est un maillon important de l'économie égyptienne, et l'État déploie beaucoup de moyens sécuritaires, moyens logistiques, tout un national qui est déployé pour pouvoir donner de l'essor au secteur du tourisme égyptien.
D'accord.
Adam, vous savez, je pense qu'aujourd'hui, tout doit être orienté au résultat. Vous l'avez dit en parlant du fait que aujourd'hui, est-ce que les priorités ne sont pas... C'est justement la maladresse de nos politiques africaines par le passé. Puis, si entre-temps, on ne considérait pas ces secteurs comme étant des secteurs essentiels sur lesquels on doit baser une politique. Or ailleurs, si vous prenez par exemple la France, par exemple, je pense qu'il y a un thème là, on parle de l'art culinaire. L'art culinaire est logé au ministère des Affaires étrangères. Ça voudrait dire, pour la France, c'est un outil diplomatique. Donc vous voyez le degré de considération de ce que c'est que la culture. C'est aujourd'hui que l'on veut, peut-être avec le changement de paradigme, on veut véritablement faire de notre culture un réel outil de développement, mais également un outil qui permet véritablement de pouvoir affecter ou inciter, en tout cas, à ces actions de transformation de nos sociétés. Donc, je pense que ça commence par venir. On a compris quelque chose. Et au niveau de la base, au sein de la population, on considère véritablement ce secteur comme étant un secteur sur lequel on devait donc baser le développement endogène de nos populations. Puis ce sont des développements-là. C'est-à-dire, plutôt nous cohabitons avec ces peuples-là. Lorsqu'ils arrivent chez nous, il faudrait véritablement que la culture soit l'axe principal sur lequel on peut nous identifier, nous définir.
D'accord. Eric, nous restons toujours en culture. Hein.
Non, je veux ajouter quelque chose. C'est très important. Parce que ce que Adam disait, c'est en réalité que nous devons vendre ce que nous avons de plus cher. la culture. Et je crois que il faut réellement définir. Si on a mis le ministère, le tourisme et la culture ensemble pour créer un ministère, je crois que l'idée fondamentale, c'est que nous puissions vendre cette culture-là afin que les gens puissent venir vers nous. Je crois qu'il y a des festivals qui sont organisés hein, dans ce sens dans le pays, mais il faut forcément qu'on appuie tous ceux qui, enfin, ces promotions, ces promoteurs de notre culture. Il y a un fait. Je voudrais au passage saluer M. Paubier au ministère du Tourisme, justement, parce que, vous savez, il y a beaucoup de choses qui se font au niveau de ce ministère-là, mais que personne n'est au courant, parce que la communication ne suit pas. Or, si vous faites des actions, vous menez des actions pour promouvoir le tourisme dans le pays, mais il faut faire valoir cela. Il faut que les gens sachent. Mais lorsque la communication, excusez-moi, mais est biaisée, je ne pense pas que l'on pourra véritablement savoir ce que l'on est en train de faire au niveau du tourisme dans le pays. Il ne faut pas aussi non plus oublier que vous ne pouvez pas faire du tourisme dans un pays sans travailler avec les acteurs privés. Ça, c'est très important. Regardez un peu dans Palimé, aujourd'hui, quand vous prenez cette préfecture de Kloto, vous voyez le nombre d'hôtels qu'il y a parce que les gens vont là-bas et les gens doivent forcément se loger, se restaurer, etc. Et les hôtels à Palimé aujourd'hui proposent beaucoup de choses. Mais tout ça là, personne n'est au courant.
Il faut vérifier, mettre l'accent sur la
communication.
Effectivement, c'est très important. Alors, Eric, je reste avec vous. Hein. Vous parlez alors dans notre sujet hein, sur le plan culturel. Vous parlez de la langue nationale et vous nous informez ce matin que le président de l'Université de Lomé reçoit l'Académie du Guingbé et des savoirs endogènes guingbés éminents.
Ah, mais j'étais très content d'apprendre cette information parce que tu te rappelles la semaine dernière, il y a deux semaines, on parlait de langues nationales. Et il y a le kabyen et l'évé qui sont les deux langues nationales. Mais à côté de ces deux langues nationales, il y a des dialectes, mais qui sont en train de perdre du terrain. Et donc, on a parlé de ta langue, la langue Akebou, qui a sorti un dictionnaire,
oui, bien évidemment.
Et donc qui avait été présenté, je crois c'était l'année dernière. Ouais. Et j'ai été vraiment surpris parce que d'apprendre qu'il y a une académie du Guingbé, la langue que nous parlons beaucoup au sud, tout comme l'évé. Mais personne ne savait qu'il y avait une académie. Et donc, c'est le bureau exécutif de cette académie-là qui a été reçu par le président de l'Université de Lomé le vendredi dernier. Et donc, ils ont eu à échanger. L'académie a présenté ses activités et c'est des projections. Et toutefois, c'est tout à fait normal puisque l'Université de Lomé est le temple du savoir. Ils sont allés demander au président de l'Université de Lomé de les accompagner dans leurs activités et dans la promotion de cette langue-là qui est en train de perdre sérieusement du terrain. Mmh. Aujourd'hui, il y a des mots. Vous savez, moi, personnellement, c'est en revenant à l'émission avec Dadédé que j'arrive à prononcer même certains mots dans ma langue.
Oh, c'est votre propre langue.
C'est ma langue maternelle. C'est fou, quoi. Et donc, je crois que si l'on peut faire des efforts au niveau de toutes les dialectes pour que nous ne perdons pas notre culture, parce qu'en réalité, c'est ça notre human being. OK. Donc, nous ne devons pas perdre cela. Et j'étais agréablement surpris d'apprendre qu'il y a une académie
de Guingbé. Et pas que ça. Et ils vont, quand ils parlent du Mina et du Guin, c'est-à-dire que c'est les fondamentaux même de cette langue-là. Parce que c'est tout un peuple qui parle cela jusqu'au Ghana. Vous allez, vous traversez le Bénin, on parle le Guingbé. Vous allez au Ghana, on parle le Guingbé. Vous allez au Libéria, on parle le Guingbé.
Le
Guingbé, c'est la langue même ça, le Guingbé. Voilà, c'est des tares que nous avons nous-mêmes. Et je crois que ce que propose cette académie aujourd'hui est très essentiel. Ils ont dit, par exemple, qu'ils feront des conférences trimestrielles en se basant sur des écrits et sur des recherches. Et je crois que s'ils arrivent à maintenir le cap, puisqu'ils vont faire des traductions de livres écrits en Guingbé, en français, en anglais et en allemand, c'est une question de ramener un peu tout cela qui sont au-delà de nos frontières aussi vers la langue maternelle.
Alors, Adam, à quoi qu'on dise, notre langue maternelle, ça fait partie de notre identité. Nous devons préserver cela.
Oui, vous savez, même, on a dit pour qu'un enfant même réussisse brillamment, en tout cas, à pouvoir donc se métamorphoser lorsque nous parlons de de nos langues françaises, par exemple, il faudrait véritablement qu'il termine pratiquement un bon cursus en ce qui concerne sa langue maternelle. Et je pense que beaucoup d'acteurs, sinon la plupart du temps, si ce n'est qu'aujourd'hui avec ce changement, comme je le disais, de paradigme, les gens ont compris véritablement que nos langues maternelles doivent être même plus promues que la langue étrangère, notamment le français et l'anglais. Sinon, entre-temps, d'ailleurs même, les gens privilégiaient pratiquement, vous allez dans les maisons, c'est le français. Et puis c'était devenu pratiquement
la mode
où pratiquement lorsque vous n'êtes pas dans cette mode là on a tendance à vous déclasser pratiquement comme appartenant. C'est aujourd'hui les gens ont compris et à justice, parce que il y a eu importation.
Mais est-ce que la colonisation n'est pas passée par là?
Ouais, bien évidemment, c'est ce que j'ai dit. Les gens ont cru en un moment donné que en le faisant vous amenez les enfants plus à comprendre rapidement français, que ça impacte. Or en réalité il n'y a pas de similitude entre les deux. L'enfant peut bien comprendre le français, mais à l'école, il ne pourra pas tenir, justement parce qu'il y a cette pratique de la langue maternelle qui manque. Donc, pour revenir à ces fondamentaux-là, aujourd'hui, comme je le disais, c'est vrai qu'il y a, lorsque vous prenez les enfants même, où les parents n'ont plus besoin, parce qu'il y a les dessins animés qui jouent pratiquement le rôle à notre place. Donc, il faudrait quand même que nous essayons véritablement de faire appliquer la langue maternelle. Pendant que vous allez dans les maisons, moi il ne m'est jamais arrivé de parler français. Mes enfants, mais au même moment, eux-mêmes, ils arrivent à tout développer d'un compétence, pas justement parce que le dessin animé fait le job à notre place. Mais justement, parce que lorsque Eric le disait, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, parce que lorsqu'on disait, il parlait de gang, on disait gain, c'est justement parce qu'on n'a pas su adapter la langue maternelle à la langue, en tout cas importée. Sinon, on dira que il parle gain. Il parle le gain, mais il parle Guingbé.
Le gain, c'est l'ethnie.
Voilà. Mais il parle le gain. Voyez-vous? Donc, justement, lorsque vous avez fini ce cursus maternel, vous pouvez naturellement donc adapter ce qu'il faut, les articles, etc. C'est ce qu'il a fait. Parce que moi, j'ai lu, lorsqu'il parle de l'académie, lorsqu'on parle, par exemple, du dictionnaire, de la... Moi, j'étais surpris. Les gens qui n'ont rien à voir avec Nante Akibou, vous parlez Akibou, avec des états, vous-même, vous ne pouvez pas vous en sortir.
Oui, Jean-Baptiste, à un moment donné, nous avons, je ne sais pas si c'est une mauvaise manière pour nous d'avoir développé aujourd'hui ce complexe alors de supériorité ou d'infériorité, je ne sais pas trop, où on préfère plutôt parler la langue étrangère, la langue d'ailleurs, et on pense tout simplement qu'on est bien civilisé en le faisant.
Oui, mais je crois qu'on a effleuré ça, c'est la colonisation. Et aussi, ce que nous suivons à travers les médias, la télévision, surtout la radio, tout ça, là, ça fait qu'on s'identifie aux meilleurs comment, aux sophistes, celui qui parle bien la langue française ou bien la langue anglaise, on s'identifie à ces personnalités, croyant que c'est ça le, l'idéal, l'exemple qu'il faut suivre. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes en train de perdre notre culture, nos langues maternelles, et il va falloir nécessairement qu'on revienne à la source, en disant que ce n'est pas l'idéal auquel du moins il faudrait quand même s'attendre, il faudrait aller, parce que d'abord tout commence par soi-même, sa culture. Nous parlons de la culture et nos langues font partie intégrante de notre culture que nous ne devons pas négliger. C'est très important, et les pouvoirs publics aussi doivent quand même mettre les moyens pour que nos langues aient de la valeur au niveau, peut-être au niveau de l'État. Si on en a parlé la dernière fois, s'il faut quand même instaurer ces langues-là, faire revenir ces langues au niveau de l'apprentissage scolaire, pour que cela puisse attirer plus d'attention aux apprenants, parce qu'aujourd'hui, comme ce n'est pas institué, bon, on essaie de négliger tant soit peu ces langues.
Et ces langues sont considérées même comme des matières facultatives.
Facultatives, donc aujourd'hui, cela quand même doit revenir pour que cela soit peut-être les deux là, c'est-à-dire EB et comment appelle-t-on le cabier qui sont les plus institués comme langue nationale, cela soit enseigné en bonne et due forme, d'accord, avec des coefficients,
des matières principales. Matières,
il faut la promotion alors de ces langues. Merci.
Alors oui, Eric, rapidement. Ce que je veux dire, aujourd'hui on est entré dans le Commonwealth et tout de suite on a dit que l'anglais soit
parler pratiquement les vendredis.
Vous savez, quand vous prenez le Gangbé, vous avez tellement de mots qui s'identifient à l'anglais. Quelqu'un qui comprend très bien le Gangbé peut facilement vous parler anglais. Quand vous lui parlez, il va comprendre, parce que il y a des mots, des détonations de la langue anglaise là, dans le Gangbé. Il y a tellement d'exemples que, bon, on va faire
quand cela tu prends Soumeka.
Par exemple, Meka, Soumeka, quelqu'un qui fabrique la chaussure.
Justement.
Mais quand tu le dis en anglais, Soumeka, l'enfant qui comprend Gangbé peut rapidement savoir que tu parles d'un cordonnier.
Il fait rapidement le lien.
Le lien. Et donc, je crois que il faudrait que ces académies qui se créent autour de nos dialectes commencent par approfondir cela, parce qu'il ne faudrait pas seulement s'arrêter à la littérature.
D'accord.
Il faut aller au-delà. Voyez-vous, l'Israël, l'Inde, ces deux exemples que je donne, c'est des pays qui dispensent l'éducation dans leur langue maternelle. Et tout le temps nous disons, les Israéliens sont intelligents, les Indiens arrivent à fabriquer les choses, les Chinois, tout ça, vous voyez, c'est des gens qui ont gardé leur identité et ils commencent par évoluer. Je crois que Adam l'a dit au départ ici, que quelqu'un qui et assimile mieux les choses, c'est quelqu'un qui maîtrise sa langue et l'éducation se fait dans sa langue.
Tout à fait. Allez, nous allons quitter la culture pour parler d'autres choses. Eric, nous allons parler de la paix. La paix. Et vous avez parlé de la paix aujourd'hui, et par rapport même d'ailleurs à cette étude ou à cette classification, bien sûr, j'allais dire. Et vous nous parlez alors de Global Peace Index 2024, et vous dites que le Togo est le 20e pays africain en paix. C'est ça.
Oui.
Nous sommes en paix.
Nous sommes en paix. Ah ouais, ça au moins il faut le reconnaître. Nous sommes en paix. Sauf que, vous savez, le Global Peace Index, c'est un indicateur qui permet de classifier, comme tu l'as dit, les États par rapport à leur degré de pacifisme. Alors, il y a des indicateurs qu'on utilise quand même pour classer les différents pays. Vous avez
Il y a des paramètres, bien sûr.
Et vous avez, par exemple, le niveau de violence dans le pays, le niveau de délinquance, les relations internationales des pays, en parlant des dépenses militaires et des dépenses de guerre. Vous savez, le Togo, je crois, par rapport au classement de l'année dernière, a perdu 3 places. Pourquoi ? Parce que lorsque le Togo a été attaqué par des terroristes au nord, tout de suite, il y a des efforts de guerre qui ont été faits.
On a riposté.
Donc, on a investi beaucoup plus dans l'armée. Et vous voyez que chaque année, le budget de l'armée s'accroît. Et donc, par rapport à ça, le classement du Togo doit forcément
s'améliorer.
Descendre,
justement.
Justement parce que le pays où on parle du pays en paix, le premier pays dans le monde, c'est l'Islande. Un pays qui n'a pas d'armée. Et donc, on ne fait pas de budget militaire, on ne fait pas d'efforts de guerre. Mais vous verrez que lorsque ce pays-là, par exemple, sera attaqué et va commencer par préparer, enfin, sinon former une armée, son classement va descendre. Donc, c'est aussi un appel à tous les États de faire en sorte que s'il y a des situations difficiles, que l'armée ne prenne pas tout le budget. Parce que quand les citoyens travaillent, sont bien rémunérés, je crois que le niveau de délinquance va descendre. Et ça va faire monter le classement du pays par rapport à Global Peace.
D'accord, merci Eric. Oui, Jean-Baptiste.
Oui.
Alors, ce qui menace la paix, c'est aussi la pauvreté. C'est aussi, en quelque sorte, la faim.
Oui.
Quand on ne trouve pas à manger, ça menace aussi la paix. C'est là où peut-être on trouvera alors de la délinquance, on trouvera alors des vices hein, qui vont se développer. Alors finalement, est-ce que vraiment nous sommes en paix?
Bon, moi je dirais non. Et je suis surpris de ce classement que Global Peace a fait. Parce que moi, avec tout le boucan qui se fait au Togo, avec tout le boucan que le gouvernement togolais fait à chaque fois qu'il y a sorti médiatique concernant cette question de paix, moi, j'aurais dans mon entendement que le Togo serait classé premier pays de paix au Togo. Et comment appelle-t-on
dans
En Afrique. Et pourquoi pas dans le monde, justement. Mais si selon ce classement, nous sommes 20e en Afrique, peut-être c'est un camouflé pour notre pays, parce que je ne peux pas comprendre. Chaque fois, on nous dit qu'il y a la paix, il y a la paix. Alors que réellement, ce qui doit favoriser cette véritable paix, il n'y a pas ça dans notre pays. Parce que tu l'as évoqué
comme
tantôt.
Quoi, comme quoi?
Comme quoi? Aujourd'hui, l'emploi des jeunes est une préoccupation réelle de la jeunesse. La pauvreté devenue ambiante, même en pleine capitale, ça se sent. Et si on veut parler des milieux ruraux, on n'en parle pas. Allons dans les zones minières, notamment les préfectures de Vaud, préfecture de Yoto, ou peut-être Sotoubwa, avec Poma. Ces milieux-là, si on était dans certains pays, ces zones minières-là, les gens vont pousser Alléluia, parce qu'on a découvert des mines sur leur sous-sol. Mais aujourd'hui, force est de constater que les préfectures dans lesquelles où ces ressources ont été découvertes, c'est c'est une situation catastrophique, désastreuse, désespérante
alors
que nous espérons. Et donc aujourd'hui, la paix est menacée dans tous ces milieux-là.
D'accord.
Alors, la paix est menacée.
Non, non, laissez, s'il te plaît.
Aujourd'hui, il y a un débat. Le débat est en train d'être dévié.
Non, pas du tout dévié. On parle de paix. Si par exemple, vous imaginez dans votre sous-sol, on extrait des ressources.
Merci, Jean-Baptiste. Alors, Adam, quand on parle de la paix, Jean-Baptiste, merci beaucoup. Merci. Adam, quand on parle de la paix, ce n'est pas aussi seulement l'absence de guerre.
Non, bien évidemment, mais vous savez, la question
est
préoccupante pour la simple et bonne raison que nous vivons des moments où l'actualité, où la politique exige à ce qu'on puisse orienter les regards vers la question sécuritaire en elle-même. C'est ce qui a conduit d'ailleurs même à certaines réformes, notamment la loi de programmation militaire, en parlant, vous l'avez dit, en parlant donc du budget, mais également des effectifs. Qui, un temps soit peu, quoi qu'on dise, c'est un engagement, parce que lorsque nous parlons de la question militaire, c'est un engagement. Cela a fait que nous avons un effectif qui a plus ou moins également, en tout cas apporté un plus à cette question liée donc au chômage dont il paraît. Mais au même moment, je pense que c'est une question qui contraste véritablement avec, au-delà des questions que vous, que Jean-Baptiste a soulevé, qui est une évidence parce que nous ne le cachons pas. Mais moi, il y a une question, parce que lorsque tout à l'heure, Eric parlait donc
des critères,
il a parlé de violence. Et moi, la violence sur laquelle je ne constate pas véritablement, je ne vois pas le gouvernement faire des efforts, c'est justement cette violence verbale. Et lorsque vous prenez, lorsqu'on parle de la sécurité, c'est aussi ça. Prenez par exemple dans la circulation, en allant, regardez le nombre de personnes qui s'adressent d'une manière violente, verbalement, pour peut-être des maladresses, entre guillemets d'ailleurs même. Lorsque vous prenez ceux qui sont sur leur moto insultant des gens dans les voitures à longueur de journée, ça se passe aux yeux de tous et on ne dit rien. C'est en cela que je dis, aujourd'hui, lorsque vous prenez, nous avons un ministère qui est chargé véritablement de cette question liée à la citoyenneté, qu'on ne voit pratiquement plus. Il n'y a plus de projet lié donc à pouvoir donc conscientiser les gens à ce qui concerne la citoyenneté. Et ça, ce n'est pas devant nous. Comment voulez-vous qu'on puisse donc parler de cette sécurité à la partir du moment où, en pleine circulation, vous n'avez pas la sécurité? Les gens vous crachent là-dessus. On vous prouve des mots qui sont indignes. Or, le Togo, par le passé, vous prenez, lorsque nous remontons un peu l'histoire, notre pays était connu comme un pays modèle où... C'est aussi ça, lorsqu'on veut véritablement distinguer les pays. Je ne vais pas citer des pays, mais le Togo était connu par le passé comme étant un pays modèle, en ce sens que lorsque vous prenez l'attractivité, la symbiose entre la population, elle lie aussi à ça. Mais on ne voit pas véritablement investir sur ces questions-là. C'est vrai, au moment où nous avons vu Mungo qui a fait des efforts en ce sens, en concertant les gens par des projets aujourd'hui, c'est pratiquement mort. Donc on laisse faire. Bon, c'est tout à fait naturellement bien qu'on puisse dire que, lorsque Jean-Baptiste le dit, qu'on puisse véritablement nuancer en disant que cette paix-là n'est pas totale.
D'accord. Eric,
ce que je voudrais dire à mon ami Jean-Baptiste, vous savez, cette classification se fait à partir de certains facteurs. J'ai cité la violence, la délinquance, les dépenses militaires et les efforts de guerre. Je dis, c'est les quatre facteurs que Global Peace Index prend pour classer les pays. Je suis tout à fait d'accord qu'il y a des situations qui engendrent la violence. Mais à ce niveau, est-ce qu'il y a violence ? Parce que pour faire cette classification, Global Peace Index doit avoir des informations selon lesquelles il y a tel genre de violence. Et tout ça, ça doit quand même paraître dans l'étude qui a été faite pour classer les pays. Personne n'est contre ce que vous êtes en train de dire. Mais là, nous sommes dans un contexte donné. Parce qu'il faut déjà toucher du doigt la violence, la délinquance les budgets de l'armée et l'état de guerre pour savoir que ce pays-là doit être classé à ce niveau.
Okay.
Voilà ce que.
Ok. Oui. Eric, on te comprend très bien. C'est-à-dire par rapport à cette classification. Oui.
On a compris.
Maintenant, nous analysons un tout petit peu ce qui.
Nous allons
de classement.
Ouais. Nous allons au-delà même d'ailleurs de cette classification pour voir la réalité. Non, on doit aller au-delà parce que nous sommes des journalistes. Parce que nous sommes des journalistes et on veut voir au-delà même d'ailleurs de cette classification.
On a rajouté la violence verbale.
Voilà.
Qui est une réalité.
Justement, il y a même la violence verbale.
Je crois que évidemment. Quand on parle de violence, c'est violence générale. Hein. Oui. C'est pas parler seulement des attaques ou des choses. Ouais. Mais quand on parle de violence, il y a la violence physique, violence verbale, voilà. etc. Tout ça là fait partie des critères pour classer les pays.
Oui, mais quand on parle même d'ailleurs de la pauvreté, on parle aussi
oui,
alors de la faim.
Justement, j'avais dit dans mon développement au départ que les violences la délinquance. Parce que la délinquance, c'est quoi? C'est quand, par exemple, les gens qui touchent à ce qui ne leur appartient pas. Mais parce que ces gens-là, ils n'ont pas ce dont ils ont besoin. C'est pour ça que je parlais, par exemple, d'un pays où les gens sont bien rémunérés par rapport au travail qu'ils effectuent. Alors là, ça va faire descendre le taux de
Et le souci, c'est que nous sommes classés 20e, mais au même moment, nous retrouvons, sur le plan africain, bien sûr, mais nous retrouvons quand même qu'il y a un certain nombre de choses également qui sont visibles alors dans notre pays. C'est ça, Jean-Baptiste.
Être 20e ne veut pas dire être 20e.
Oui.
Parce que, par exemple, celui qui est 19e, est-ce que vous savez dans quel état le pays là se trouve? Celui qui est 21e. Alors, tout ça, c'est qu'il faut lire le rapport pour comprendre tout ce qui a été.
Je pense que ce qui est important, je pense que ce classement ne peut être apprécié qu'à l'aune des classements antécédents. Parce que c'est vrai, je ne sais pas si l'on a dégringolé
ou
est-ce que c'est un actif qu'on a eu, je ne sais, je ne saurais le dire. Mais nous prenons tout simplement les critères et les violences ou pratiquement pris dans leur globalité, qui permet véritablement donc de faire une lecture et une appréciation judicieuse de la chose. Sinon, je ne sais pas, 20e, si on en s'en réjouit ou pratiquement, c'est une sorte de dégringolade. Ça, on ne sait pas. Mais fort heureusement.
Mais Eric disait que nous avons perdu 3 points.
Il a dit.
D'accord. Oui. Jean-Baptiste, des fois aussi, on a besoin. On dit, pour mesurer la portée surtout de la paix, il faut vivre peut-être alors dans un pays de guerre.
Ouais, c'est ça.
Et c'est là où vous verrez bien sûr ce qu'est vraiment l'importance de la paix. C'est bien ça.
Oui, c'est bien ça. Mais bon, si peut-être vous imposez, bien un gouvernement impose la paix à ses citoyens, je ne pense pas qu'on puisse parler de paix.
Comment ça imposer la paix? Je ne comprends pas.
Oui, imposer la paix. Par exemple, la situation que nous vivons au Togo, peut-être il n'y a pas les armes qui circulent. Chaque jour, on va dire que dans telle localité, il y a eu, des affrontements entre les militaires et les civils, patati patata, dans des localités de façon récurrente. On ne le dira pas au Togo, mais c'est que l'armée, le gouvernement, à travers l'armée, impose la paix aux Togolais.
Je pense que l'appréciation est biaisée pour la simple et bonne raison, pas tout à l'heure que vous allez ailleurs. Cela dépend des politiques. Et dans tous les secteurs, si nous avons une politique vertueuse, c'est juste parce que on peut apprécier à la hauteur de ce que nous vivons cette politique-là. Donc, moi, je ne souhaiterais pas qu'on dise l'imposer. Mais ce sont la résultante, de la réussite des politiques publiques.
Bon, vous savez, le budget, quand nous comparons les budgets, j'ai parlé tantôt de budget, quand on parlait de la culture pour le ministère du Tourisme, vous voyez que notre budget consacré à l'armée est en constante augmentation.
Tout à fait.
Et maintenant, alors qu'il y a des défis sociaux qui sont là, qui ne sont pas résorbés.
Non, on sait que tout est urgent. Mais actuellement, dans aucune pays, on ne peut pas dire.
Il y a les priorités.
Pourquoi je dis c'est la réussite des politiques publiques qui font la résistance de l'appréciation des questions, qu'on soit dans l'armée ou ailleurs.
D'accord.
Donc okay, l'imposer, okay, okay. Je pense que ce ne serait pas la
oui, oui, mais maintenant, nous
allons... Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des secteurs auxquels il faut donner plus d'attention.
D'accord, nous allons quitter le sujet.
La paix est vraiment
imposée. Merci beaucoup. Là. Oui, nous allons quitter le sujet. Nous allons parler maintenant politique. Nous savons que le vendredi dernier, il y a le bureau de l'Assemblée nationale qui a été mis en place. Ce bureau, vous le savez très bien, c'est désormais dirigé par Sévon Tépé, Kodjo Adédié, que vous connaissez. C'est très, très bien, il est ministre alors de l'urbanisme et de l'habitat. Alors, c'est vrai, Eric, on a vu tout un bureau qui est composé, et là, c'est 13 personnes, bien sûr, 13 membres alors de ce bureau, et tout n'est que unir. Est-ce que vous avez été surpris?
Oui, j'ai été surpris.
Pourquoi?
Parce que...
Agréablement, bien désagréablement.
Non, j'ai été surpris parce que, pour ce que je connaissais de... du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, c'est qu'il y a des postes qui sont réservés aussi pour les autres partis ou les autres groupes qui sont à l'Assemblée. C'est-à-dire que ça se passe toujours par vote. Donc, si Unir, qui a gagné les élections, prend le poste de président, on peut avoir un premier vice-président Unir, mais après, puisqu'il y a au moins trois ou quatre vice-présidences, je crois qu'il y a un poste qui est réservé à quelqu'un d'autre qui n'est pas forcément de qui a gagné les élections. Donc pour moi, je me disais que au moins il y aurait quand même quelqu'un, puisqu'il n'y a que trois députés qui
de
sont
l'opposition.
De l'opposition, je me disais au moins qu'il y aurait quand même, puisqu'ils ne pourront pas aujourd'hui, au vu de ce qui nous a été dit après le vote de leur règlement intérieur, ils ne peuvent pas former de groupe parlementaire. Je me disais au moins qu'on leur accorderait une ou deux places au sein du bureau exécutif. Mais quand ça n'a pas été fait, c'est là où je dis j'ai été surpris.
D'accord. Oui, Jean-Baptiste, vous avez été surpris aussi?
Non, moi je crois que déjà à voir ce que Unir a commencé depuis les élections jusqu'à ce que les résultats ne soient proclamés, on s'attendait à ce scénario parce que l'Assemblée nationale est composée à 97% de députés Unir. Je crois que...
108 sièges.
Oui, 108 sièges sur les...
les 113.
113. Je crois qu'on devrait s'attendre à cela. Il est bien vrai. Le règlement intérieur disait qu'on doit quand même veiller à ce que le bureau de l'Assemblée nationale respecte toutes les... accorde de la place aux tendances politiques qui sont représentées à l'Assemblée nationale. Mais
le nouveau règlement aussi.
Oh, oui, donc je crois que de violation en violation, il est patent que le test qu'eux-mêmes ils se sont donné n'est pas respecté. Je parle bien du règlement intérieur, cela n'est pas respecté. Et aujourd'hui, la gloutonnerie qui se manifeste dans beaucoup de secteurs étatiques, je crois que cela aussi est une réalité à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Et à voir cela, je ne suis pas du tout surpris parce qu'on s'attendait à cela depuis. Donc ce n'est pas du tout une surprise. Mais peut-être je vais parler de la personnalité du président de l'Assemblée nationale, si tu permets.
Oui, oui.
Qu'aujourd'hui, nous, en tant qu'hommes de médias, nous devons avoir la peur au ventre avec l'arrivée de Kodjo Adédié au perchoir, parce que nous avons écrit là-dessus, justement pour dire que la presse est en danger, parce que si on se réfère aux événements que nous avons connus depuis 2021 avec nos deux confrères, nos trois confrères d'ailleurs, j'allais dire Ferdinand Haïté,
Joël Ega
et puis Isidore Kouanou, avec leur émission qu'ils ont eu à faire le 30 novembre 2021 dans l'autre journal qui leur a valu un emprisonnement de 21 et 22 jours à l'époque. Ils ont été libérés je crois, le 31 décembre 2021. Et deux mois plus tard, notre confrère Joël Ega, suite à une crise, s'en est parti comme cela. Et aujourd'hui, il laisse cinq orphelins derrière lui. Et cette histoire était là, on croyait que l'histoire était terminée, mais un an plus tard, en février-mars 2023, l'affaire a ressurgi avec une nouvelle convocation de Ferdinand Ité et puis Isidore Kouonou. Et ils étaient obligés de fuir le pays et la justice les avait condamnés à 3 ans de prison ferme avec, je crois, 3 millions d'amendes chacun et un mandat d'arrêt international a été décerné contre eux. Aujourd'hui, ils ne sont pas au pays et cela ne finissait pas.
Oui.
En novembre de l'année dernière, c'est comment appelle-t-on Ananisoussou et l'autre là, comment il s'appelle, Loïc Lawson aussi, qui pour une affaire de 400 millions volés au domicile du ministre, ils ont été encore arrêtés et détenus pendant quelques jours avant d'être libérés. Toute cette panoplie d'événements qui nous font dire que aujourd'hui la presse doit s'interroger sur l'arrivée du ministre Adedie au Parlement.
D'accord, ok, merci beaucoup. Alors oui, Adam, vous avez été aussi surpris.
Oui, en tout cas pour la composition, en tout cas monocolore, étant donné qu'on n'a pas eu d'autres tendances politiques qui font partie de ce bureau-là. D'abord, la surprise devait être naturelle, puisque c'est pour la première fois qu'on voit un bureau composé de la sorte. À partir du moment où on a eu une assemblée qui, pratiquement, lorsque vous prenez aujourd'hui l'organisation, on est passé de 4 vice-présidents à 6, ça vous est dit quelque part que c'est l'expression naturelle de la 5e République. Et donc, je pense que lorsque vous voyez, même si au niveau du règlement intérieur, en tout cas, ce n'est pas indiqué. En tout cas, le bon sens voudrait bien qu'on puisse avoir d'autres tendances. Comme j'ai l'habitude de le dire, l'Assemblée nationale est considérée comme là où se fait le débat contradictoire. Et naturellement, une Assemblée composée, qui soit une ou deux ou trois personnes, devrait avoir au niveau du bureau un membre venant donc d'autres tendances, ce qui n'a pas été le cas. Donc la surprise devait être naturelle, puisque c'est pour la première fois qu'on assiste à ce genre de choses. Mais au-delà de tout, je pense que il y a le de rebondir naturellement sur ce que Jean-Baptiste disait tantôt, puisque quelque part c'est mal connaître l'homme à dédier. Et justement, moi, ce que j'ai toujours eu l'habitude de ne pas faire, c'est justement de faire en sorte que nous portons, nous en tant que journalistes, nous portons l'opinion que les gens veulent distiller, en tout cas au sein de la population. Puisque en parlant donc de cette affaire de 400 millions jusqu'ici, restez par-delà de la gorge. Et je pense que on va plus refaire le débat. Mais ce qui est important et naturel de pouvoir donc retenir, comme je le disais, parlant donc de l'homme, c'est justement à dédier ces meneurs d'hommes qui sait dissocier naturellement les choses. Lorsqu'on est au niveau de l'institut, parlant donc du professionnalisme, il sait dissocier le professionnalisme de la politique et la politique de l'homme confessionnel dont il est. Et c'est ce que les gens n'ont pas l'habitude de comprendre. Lorsque la personne agit, puisque nous sommes dans un cadre où un problème était posé, il fallait quand même aller jusqu'au bout. Et je pense que la meilleure façon de pouvoir arriver véritablement donc, à dissocier les parties lorsqu'un problème se pose, c'est justement convoquer donc la justice. Et lorsqu'on le fait, on dit voilà, c'est un homme confessionnel qui le fait. Et c'est pourquoi je dis, c'est là où les gens n'ont pas peut-être compris l'homme qui sait véritablement dissocier les trois choses. Mais en demeurant, lorsque vous revenez sur la question, je pense que aujourd'hui, c'est vrai, puisque cette question pouvait être orientée autrement. C'est pourquoi je dis, ne prêtons pas le flanc en portant l'opinion. Mais aujourd'hui, d'accord, le président Fonia Singbe, si nous prenons comme étant donc le président du Parti Uni, a véritablement montré à la face des Togolais qu'il ne va pas se faire orienter de ses choix parce que les gens veulent dicter. Mmh, et c'est d'accord. Ce qui pourrait.
Eric, c'est vrai que. Non, c'est vrai que déjà, ce qui a été un peu étonnant, surprenant, le 14 dernier, c'est-à-dire le vendredi, c'est que le président, le nouveau président lui-même n'était pas là. Et ouais. Il a dit qu'il était en voyage. Mmh. Et donc, mais ce qui est sûr, il a été élu, bien sûr. Et pour le doyen d'âge, qui devait même d'ailleurs transmettre les charges ou faire la passation à l'ordre des charges, ça n'a pas été fait. On a demandé même d'ailleurs au premier vice-président alors de faire pour que la passation soit faite, et lui il a refusé, il n'a pas accepté non plus. Et finalement, ça pourrait être un peu surprenant là.
Je ne vois pas parce que il est déjà ministre et donc il était. Enfin, il continue pas à gérer les affaires courantes.
Mais est-ce qu'il n'était pas au courant qu'il devait être élu peut-être président de l'Assemblée?
Ah, mais ça, je ne saurais le dire. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Je ne sais pas si pour nommer, pour élire quelqu'un à l'Assemblée nationale, il faut le lui dire d'avance. Je ne sais pas si c'est comme ça se passe. Parce que,
Il faut motiver la candidature.
L'incongruité, c'est assez
S'il vous plaît. Et c'est Eric qui a la parole. Eric, vas-y.
Jean-Baptiste. Alors, je disais que, franchement, je ne sais pas s'il était déjà au courant avant cette élection. Mais, c'est qu'il fallait quand même qu'il soit là pour déposer sa candidature. Mais il fait partie d'un parti politique. Et le parti politique peut le proposer comme candidat. Parce que c'est de leur organisation. Mais je voudrais aussi revenir par rapport au fait qu'il n'y ait pas une autre tendance au sein du bureau. Il a été dit quand même que ils n'ont pas proposé de candidat. Ils n'ont pas proposé de candidat et à plus forte raison que certains n'ont même pas voté le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Si tel est le cas, donc on ne peut pas les copter pour des postes au sein du bureau.
Juste une minute, c'est-à-dire que parlant donc de la mosque qu'a fait Jean-Baptiste, vous allez me dire que là, même en plein séance, est-ce que vous n'avez jamais vu des députés s'absenter, mais que en plein vote, que leur vote soit pris en compte. Donc, je pense que ce sont des situations qui existent. Et donc, l'absence de ADJ à l'hémicycle ne peut pas justifier le fait qu'il ne puisse pas être choisi comme président.
D'accord.
C'est une question d'opinion. C'est une question de règlement intérieur.
Oui, Jean-Baptiste, ce qui est sûr, il y a pratiquement les 106 députés, même de UNI, qui ont voté pour, qui ont donné leur consentement à cela. Et ce qui veut dire que. Enfin, est-ce que ça ne veut pas dire quand même qu'il y a ce consentement qui a été fait d'avance?
Non, je crois que le problème, je disais tantôt que, bon, c'est-à-dire que tout a commencé par la manière dont le vote a eu lieu, donc ça veut dire que tout le reste sera automatique. C'est un désordre organisé.
Le vote est orienté sur le règlement intérieur. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale n'a jamais dit.
Le vote à l'Assemblée nationale n'est qu'une chute logique de.
Jean-Baptiste, on parle d'une institution. On parle d'une institution, ce n'est pas du désordre organisé.
Quel désordre?
Mesurons quand même nos mots, c'est très important. Vas-y, oui.
Ok, bon. Bon, le vote a eu lieu, on a eu un bureau, c'est ça aujourd'hui l'essentiel. On attend de voir ce que ce bureau va faire pour le pays, mais je continue de le dire que nous, hommes de médias, nous devons quand même nous poser mille et une questions.
D'accord. Parce
que nous avons des préoccupations.
Merci beaucoup, cher confrère. Nous allons maintenant donner la parole. Nous allons donner la parole à nos auditeurs qui s'impatientent aussi de rentrer en ligne avec nous, ou du moins de participer à ce débat. Et donc, nous allons faire un clin d'œil à nos annonceurs. Nous revenons juste après pour leur donner la parole.
Une entreprise qui souhaite se développer a besoin d'accéder à des informations, d'analyser un marché, identifier ses prospects, ses partenaires, ses concurrents et bien entendu les contacter sans difficulté. GoAfrica Online recense, classe, enrichit et surtout tient à jour des millions d'informations sur le monde des affaires en Afrique au profit des utilisateurs, tant dans leurs besoins personnels que professionnels. Notre plateforme est la première source d'informations sur le monde des affaires en Afrique. Vous voulez accélérer vos opportunités d'affaires sur le continent? Une seule référence, www.goafricaonline.com.
fine, légère, équilibrée et rafraîchissante. Warsteiner, une bière internationale, prestigieuse, allemande, brassée depuis 1753 par la 9e génération de la même famille, est enfin au Togo, sous licence par la Société Nouvelle de Boissons SNB. Warsteiner, bière blonde 100% malt, brassée selon la loi de la pureté allemande. Warsteiner, la vie dorée, Sikavi, format 50 centilitres à 650 francs CFA. Warsteiner, la vie dorée.
Chez Sunubank, vous êtes unique. Désormais, avec l'application mobile MySunubank, gérez vos finances sans stress depuis chez vous. Transférez instantanément vos fonds. Retirez de l'argent sans carte bancaire au GAB. Souscrivez à des polices d'assurance 100% digitales et bien plus encore. Téléchargez dès maintenant l'application sur Play Store ou Apple Store et suivez les étapes. MySunubank, la banque 100% digitale. Et Pesenta. Pour plus d'infos, contactez le 84 44 ou rendez-vous en agence. Sunubank a le bon profil pour vous accompagner digitalement. Sunubank, avec vous à chaque étape.
Auxilium Santé, votre conciergerie médicale de référence, vous offre l'accès aux soins de santé les plus avancés. Une prise en charge médicale d'exception. Grâce à notre savoir-faire, nous organisons votre prise en charge médicale à l'étranger. Réalisez votre bilan de santé personnalisé. Téléconsultez votre médecin en toute simplicité. Obtenez un second avis médical décisif. Bénéficiez d'un séjour médical exceptionnel. Et si vous ne pouvez pas voyager, c'est votre chirurgien qui vient à vous. Pour votre plus grand confort, optez pour l'hospitalisation à domicile. Notre équipe médicale vous accompagne au quotidien. Confiez-nous l'achat de vos médicaments ou matériels médicaux. Nous vous livrons en 72 heures chrono. Optez sinon pour une prise en charge plus naturelle à l'eau thermale. Auxilium Santé, l'expertise médicale à votre portée. Contactez-nous au plus 228 93 49 82 82. Plus 33 695 710 895. Sur notre site web www.auxilium-santé.com.
Tu sais quoi, Elisabeth? Ma vie a changé depuis que j'ai la fibre Canal Box.
Miaou? Comment ça?
Canal Box est une connexion internet stable et très rapide qui me permet de télécharger et d'envoyer à la vitesse de la lumière et en quelques secondes les audios, vidéos et divers documents, même les plus lourds. Mieux encore, je paye une seule fois mon abonnement par mois et toute ma famille et moi accédons à internet en illimité, au CMR, sans aucune limite de méga, hein, H24 et 30 jours sur 30.
Pour toute ta famille en même temps et illimité, ça doit être économique Canal Box. Hein?
Très économique même. D'ailleurs, en ce moment, l'installation et la box fibre Canal Box sont gratuites.
Gratuites? Comment, ma?
Tu as très bien entendu. L'installation et la box fibre sont actuellement à 0 francs.
Je veux avoir ma Canal Box.
Appelle vite Canal Box au 88 66 ou fonce dans la boutique la plus proche pour en profiter. Canal Box. Vive l'internet illimité.
Yeah! Chérie, tout à l'heure là, je vais me garder les pulls, le foutu est déjà prêt.
Mais toi là, tu n'es pas à la mode. C'est la machine à foufou mix qui tourne.
La réduction de 100 000 francs CFA sur tous les foufou mix est de retour. Du 10 au 22 juin 2024, prépayez votre foufou mix et économisez 100 000 francs CFA pour une livraison au mois d'octobre, le mois du consommé local. Facilitez-vous la vie avec foufou mix, une entreprise citoyenne à votre service. Infoline 90 78 72 30 90 78 72 30 ou 97 55 28 28 97
755-28-28. Haut de gamme de Canal Boutique, votre magasin de prêt-à-porter où vous trouverez tout article vestimentaire homme. Pour le renouvellement de votre garde-robe, pour votre mariage ou autre cérémonie, vous trouverez ce qu'il vous faut à haut de gamme de Canal Boutique. Costume, deux ou trois pièces. Saharienne, blazer, pantalon chemise, ceinture, chemise et chaussures, le tout de qualité supérieure. à haut de gamme de Canal Boutique, passez les commandes des articles pas disponibles en magasin. À haut de gamme de Canal Boutique, vous trouverez des parfums de grande qualité. Vous aimez du beau? Alors faites-y un tour. À Canal Boutique, vous y trouverez de la qualité. Canal Boutique, boulevard du 13 janvier, en face du feu tricolore et du terrain nu de la Lolato. Contact 90 77 97 07.
Vous avez des problèmes de climatisation dans votre voiture et vous êtes à Lomé? Appelez Baya Climatisation Auto. Ce sont des spécialistes en climatisation auto. Ils diagnostiquent, réparent et rechargent ta climatisation en moins d'une heure. Vous avez construit une maison et vous voulez installer de la climatisation et faire aussi leur maintenance? Appelez Baya Climatisation. Vous payez trop cher votre électricité et vous voulez faire des économies? Appelez Baya Climatisation. Votre congélateur ou frigidaire ne fonctionne plus? Appelez Baya Climatisation. Baya Climatisation, boulevard Jean-Paul II, en face du stade de Kégué. Téléphone 70 23 88 88 ou alors 97 77 88 88.
Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez participer aussi au débat et c'est à travers nos deux numéros 22 21 33 74 et le 91 36 63 75. Premier auditeur que nous insérons. Allô?
Allô?
Oui, bonjour. Bonjour, papa Sordinet.
Oui, on dit que nous sommes classés 20e mondial, du pays, comme les pays qui sont en paix ou des pays où il n'y a pas le...
20e sur le plan africain.
Le plan africain.
Oui.
Ah, donc, d'accord. Est-ce que réellement, il n'y a pas de la guerre dans le pays, hein? Mais est-ce que réellement nous sommes, nous voyons que nous sommes en paix dans le pays? Merci.
Merci beaucoup, 22, 21, 33, 114, 91, 36, 63, 75. Allô? Allô, madame ici, bonjour.
Je ne suis pas beaucoup, mais je suis la deuxième intervenante. Je vais parler de l'Assemblée, non?
Oui, tout à fait, nous avons parlé de l'Assemblée.
Le président de l'Assemblée, là. Est-ce que, selon vous là-bas, est-ce que les gens sont sérieux dans ce pays? Est-ce que les gens sont vraiment sérieux? Pourquoi ils nous refusent glacialement? Est-ce que je veux dire, vous ne les invitez jamais pour venir nous parler, nous expliquer pourquoi ils nous refusent l'alternance et la démocratie, pour qu'on soit développé, qu'on soit heureux, quoi. Appelez-les, invitez-les, quoi. On ne va pas continuer à vivre dans la crise sur crise, débat sur débat, qui fatigue tout le monde. Même vous là-bas, ça vous fatigue. Hein? Et nous aussi, avec ça, nous autres, en plus. Du téléphone et tout le reste. Et pourquoi ils nous font ça? Et puis, je ne sais pas de quoi je voudrais parler. Hein. C'est-à-dire que le pays a délinquance avancée. Ce n'est pas normal. Quand tu fais un mandat de 5 ans, tu ruines un pays. Et là, ils ont fait 12 mandats de 5. Et ils en révèlent, ils ne sont pas rassasiés. Et puis, c'est des gouvernants qui sont avares. Hein. Ils ne cèdent rien. Hein. Ils sont pingres. Ils ne font rien. Et là, c'est une république, quoi. Ils n'ont qu'à passer la main. Hein, je vais revenir parce que je vais faire un coucou à Abiy Alpha. C'est cette semaine.
D'accord.
Et à vous.
Merci beaucoup, madame Essi. Merci pour votre intervention. 22, 21, 33, 114, 91, 36, 63, 75. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Bonjour, bonjour.
Oui, bonjour, comment vous allez?
Oui, je n'ai pas de radio à côté de moi.
Allez-y. D'accord, Ben, allez-y. Allez-y, Ben. Décidément, il n'a pas de retour. Allez-y, Ben. Ah, allô? Décidément, il est parti. Allô?
Allô? Oui, c'est par rapport à l'émission. Bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Ça va bien.
Votre nom?
C'est Monsieur Diobo.
Monsieur Diobo, vous nous appelez de quel quartier?
Je vous appelle de Sokodé.
De Sokodé, allez-y.
Ok, d'accord. Juste c'est pour vous féliciter par rapport à l'émission.
Merci beaucoup.
Je dis quelque chose à madame ici. Je la félicite beaucoup pour tout ce qu'elle fait pour la radio tous les temps. Mais ce que je veux attirer l'attention, ce n'est pas la transition ou bien la...
L'alternance, vous l'avez
dit. Le régime qui fait forcément le développement d'un pays. Tous les temps, quand elle rentre l'émission, c'est ça. Je veux attirer son attention que dans la plupart des pays aujourd'hui, on a vu, on a changé les gens à la tête des pays, mais ça n'a rien donné. Je vais encore revenir par rapport aujourd'hui l'élection ou la nomination de M. Hadidji à la tête.
C'est une élection plutôt, pas une nomination.
M. Hadidji n'est pas là, bien sûr. C'était sur le consensus. Hadidji savait pertinemment qu'il allait être à la tête aujourd'hui du Parlement avant qu'il ne voyage. Il a voyagé sur l'instruction du chef de l'État. Et il a déposé le dossier unanimement. Tous les autres acteurs, ce qui concerne les députés à l'Assemblée nationale, savaient pertinemment que c'était un homme idéal qui a été choisi. Bon, il est là où il n'est pas là. Aujourd'hui, c'est la personne que nous avons à la tête aujourd'hui de notre Parlement. Nous devons faire avec, on doit donner une confiance à ce monsieur. Nous le respectons, nous savons l'engagement qu'il a vis-à-vis du Parti uni. Nous, on ne fait que lui souhaiter bonne chance. Et si les gens lui reprochent aujourd'hui de quelque chose, bien sûr, personne n'est parfait sur cette terre. D'accord. Bon, on le demande à son arrivée, il fasse les choses bonnes pour que le développement du pays nous puissions avancer.
D'accord, merci beaucoup.
Aujourd'hui, M. ce qui concerne également, je vais terminer.
Oui, rapidement, monsieur.
Aujourd'hui, on parle aujourd'hui que nous sommes en paix, nous sommes en paix. Bien sûr, le Togo aujourd'hui, nous sommes en paix. Quiconque peut le dire. Si même aujourd'hui les gens disent que sur le plan économique, mais faisons un peu attention et voir pourquoi les étrangers viennent dans notre pays, ils exploitent, ils ont des richesses pour venir partir ailleurs. Il faudrait que les gens enlèvent dans leur tête que après mes études, je vais aller travailler dans la fonction publique. C'est l'initiative privée. Chacun n'a qu'à s'y mettre. Aujourd'hui, il y a les femmes qui sont à la maison, la plupart des filles qui disent il n'y a rien, il n'y a rien. Aujourd'hui, même simple Pia Wata, s'il prend l'initiative de vendre Pia Wata, il y a de l'argent dedans.
D'accord. Merci
et
beaucoup.
Vous allez voir comment va évoluer.
Merci beaucoup, M. Diobo, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui sont en ligne. 22 21 33 114 91 36 ou en 315. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, monsieur. Gado. Oui, monsieur Gado, bonjour.
Oui, vous savez, moi je trouve que l'UNIR a fait plus de désolation dans ce pays que l'RPT. Hein. C'est pourquoi Abbas Kaboua disait que qui va nous rebeller, il y a débat. Parce que le président Faure et ce gouvernement n'ont rien fait pour le Togo. Regardez les émigrants. Regardez les émigrants, nos routes, nos hôpitaux. On attend quoi alors? Même cette assemblée-là, nous, on n'attend rien de cette assemblée-là. Nous tous, là, on attend que la mort dans ce pays. Merci, bonne journée.
Allez, bonne journée. 22, 21, 33, 114, 91, 36, 63, 75. Allô?
Mais bonjour.
Oui, bonjour. Diminuez un tout petit peu le volume de votre... Oui, Basile, diminuez le volume de votre poste à côté de vous.
C'est déjà fait.
D'accord. J'espère que vous allez bien.
Oui, tout le monde.
D'accord, allez-y.
Il s'amuse le plateau. Et il y a lui de l'incongruité et du désordre. Et que quelqu'un parmi vous refuse là-bas. Mais ce n'est pas la première fois. Ils sont arrivés là-bas par quoi? Même aujourd'hui, ils se disent qu'ils sont dans la 5e République. Une élection qu'on a organisée sous la 4e République, ils disent qu'ils sont dans les députés de la 5e République. Non. Il y a toutes les énormités qu'ils peuvent faire. Parce que le président, quand il se lève, ce qui lui plaît, c'est ça, il fait au pays. Mais il n'y a aucun développement, il n'y aura pas un développement dans ce pays. Merci.
Merci beaucoup, Basile, pour votre intervention. 22 21 33 114 91 36 63 75. C'est à travers ces deux numéros que vous pouvez participer au débat de ce mardi. Allô? Allô, bonjour.
Allô, bonjour.
Oui, comment vous allez?
Ça va, c'est M. Mahouto à l'appareil.
Oui, M. Mahouto, allez-y.
Je salue le plateau.
Allez-y, oui.
Classement du Togo sur le 20e place en Afrique. Moi, je vois que les institutions qui font, qui donnent ces classements-là, vous voyez, vous-même, vous êtes tous à l'antenne là-bas, vous voyez même la configuration de l'Assemblée nationale. C'est le signe de paix, ça. Il n'y a pas de paix au Togo. Vous voyez, dans le pays, la drogue, ça suit partout. Ce qu'on appelle depuis là. Les enfants, les grands-pères, les gens qui ont à ciel ouvert. Vous voyez, à Kigami,
les petits voleurs là, ils vous attaquent n'importe quel moment. C'est la paix, ça. Qui appelle à toi au Togo? Merci, bonne émission.
Allez, bonne journée, Monsieur Mauto, pour votre, enfin, merci aussi pour votre intervention. 22 21 33 114, nous avons encore quelques minutes pour recevoir notre dernier auditeur. Allô? Allô? Allô, bonjour. Décidément, tout le monde n'est pas avec nous. Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Je vais très bien.
Votre nom?
C'est Benjamin.
Benjamin, vous nous appelez de quel quartier?
Je suis présentement au marché à Daoulato.
À Daoulato, allez-y.
Ok, c'est à propos du rapport qui parlait de la paix au Togo. Sérieusement, au contenu des émissions, c'est comme ce grand chercheur qui avait dit, si tu me donnes un graphique, je peux te le faire dire tout ce que tu veux. Franchement, il faut vraiment être aveugle pour parler de paix au Togo. Comment on peut parler de paix dans un pays où on change de république sans passer par un référendum? Moi, depuis que moi je suis la qualité politique dans ce monde, je n'ai jamais vu de changement de république sans référendum. C'est la première fois, c'est exceptionnel. De plus, la paix, ce n'est pas parce que ça ne file pas dans le pays qu'il y a la paix. La paix, comment on peut se sentir en paix dans une pauvreté qui sent dans tous les secteurs du pays, c'est-à-dire même les gens sont incapables de manger une fois par jour. Et je me demande mais comment ils peuvent le faire si 3-4 tomates coûtent 1000 francs. Je me demande si le Togo ne produit pas de tomates. Les denrées de première nécessité. Présentement, si tu n'es pas une personne fortune, tu ne peux pas te nourrir à la maison, tu ne peux pas manger. Et c'est un fait. La pauvreté est ambiante. Ils sont partout. Franchement, je me pose des questions. Moi, chaque fois que je vois la télé, on me parle de réforme, auto-réforme. On ne sent rien. C'est un fait. Et dans ça, on nous parle de paix. Peut-être c'est une paix qui satisfait certains. Hein. Mais pour nous, la grande majorité de la population, on se pose des questions. Peut-être aussi on a une autre compréhension du mot paix. Sinon, il ne peut pas y avoir de paix dans un pays où les gens ont faim.
D'accord.
La faim est ambiante, même dans la capitale, n'importe où. On est incapable de manger deux fois par jour. C'est un fait. Il faut qu'on le reconnaisse. Il faut demander à tout le monde de faire un effort pour nous sauver. C'est grave ce qui se passe. Moi, je suis au grand marché pour les enfants. Hier, je n'ai même pas pu payer des condiments parce que les prix étaient excessifs.
D'accord.
4 tomates à 1000 francs. Et on me parle de paix.
Vous insistez beaucoup sur la tomate. C'est qui est.
On écoute à la radio, on se pose des questions. Hein.
D'accord. Merci beaucoup, Benjamin, pour votre intervention. Je pense que Benjamin, c'est le dernier auditeur pour le compte de cette émission de ce mardi. Merci à vous, qui avez réagi et qui avez participé alors à ce débat. Déjà, nous revenons en plateau pour faire un tour de table avant de clôturer l'émission. Adam, vous avez écouté les uns les autres qui se sont prononcés, bien sûr. Il y a des gens qui se sont prononcés alors sur cette classification de Global Peace Index 2024 qui a classé le Togo déjà 20e pays sur le plan africain en matière alors de paix. Et beaucoup de gens également se sont prononcés alors sur la politique chez nous, ça n'en manque pas et c'est normal. Alors, quelle est votre réaction?
Non, je pense que ce sont des sujets d'intérêt général qui ont été donc abordés par les auditeurs. Et je pense que chacun a eu quand même à tirer le meilleur de lui, parce que lorsque nous prenons cette question, surtout notre ami qui est appelé de ce côté a dit des choses très très importantes.
Monsieur
Diobon. En ce qui concerne en tout cas l'organisation de ces élections au niveau de l'Assemblée nationale, mais également prendre en compte les dispositions qui régissent véritablement donc ou le règlement intérieur qui a prévalu. Je pense que, comme l'avait dit, c'est le dernier tour de table. Ce qui est important, je pense que moi je reste toujours sur cette élection du ministre ADJ. Et comme je le disais, que les gens n'ont pas véritablement compris, là l'habitude de le dire, lorsque vous avez une presse pour vous, ça veut dire que vous avez les autres contre vous. Donc il laisse le choix à chaque journaliste de pouvoir apprécier ce qu'il fait. Mais on ne va pas apprécier ce qu'il fait dans la diffamation. Lorsque vous le faites de toutes les façons, il y a également la loi qui sera là quand même, qui sera départi les partis. Mais au même moment, je pense que c'est a déjà une forte personnalité. Il sera véritablement d'en faire en sorte de prendre des dispositions qui est toujours qui va dans le sens de l'émancipation de la presse. Parce que ce que les gens ne savent pas, vous prenez parce que lorsqu'il était au ministère du Commerce, il a instruit de telle sorte que lorsque nous avons la foi, par exemple, qui arrive, à partir du moment où un journaliste est en règle avec la HAC, qu'il soit donc pris en compte dans la disposition de la campagne publicitaire en ce qui concerne la foi. Quand il est parti, on a vu ce qu'est devenu, en tout cas les journalistes, en ce qui concerne cette foire-là. D'accord. Donc ça voulait dire quelque part, c'est quelqu'un qui se soucie de cette presse-là. Okay. Et je pense qu'il a la main qui pourra prendre les dispositions pour l'avantage.
Oui, Eric.
Non, je...
Une publicité.
Je pense que, comme Adam l'a dit, M. Diobo a parlé de l'alternance qui, selon lui, n'est pas forcément une panacée pour le développement. Il a également parlé de l'Assemblée nationale et je crois fondamentalement aujourd'hui qu'il faut qu'on mette l'accent sur l'initiative privée, comme il a dit. Tous les jours, les gens qui appellent, nous-mêmes qui faisons des débats ici, on dit, on souffre, on a faim. Et je me demande si on a faim à un certain niveau, je ne sais pas. Évidemment que personne ne pourrait même appeler, personne ne pourrait même venir faire un débat. Par contre, quand Mme Essi disait qu'il y a trop de débats, etc., je pense que c'est le lieu d'appeler plutôt tous les acteurs politiques et de la société civile à mener les débats qu'il faut. Parce que vous savez, le gouvernant, il a une idée sur sa gouvernance. Il dit, moi, voilà de quelle manière je vais conduire la politique nationale pour le développement. Mais il y a la société civile et les acteurs politiques de l'opposition qui doivent forcément apporter leur plus, qui doivent forcément mener les débats. Vous savez, on invite des gens pour des interviews, ils ne viennent pas. On leur demande participer ou donner votre opinion sur un sujet, ils ne disent rien. Mais à quel moment on peut mener de réels débats? C'est pour ça que j'ai dit, aujourd'hui, je suis vraiment touché par le fait que le débat au niveau de l'Assemblée nationale ne sera pas ce que nous souhaiterions. Mais comme on a...
Ça devient un débat contradictoire.
Ouais, mais comme on a une opposition extra-parlementaire, qu'elle essaie de mener aussi le débat là où elle se trouve.
D'accord.
Et je crois que c'est pour ça que je dis toujours que le professeur qui est de la société civile là, le professeur Dosset, mais celui-là malheureusement il est de la société civile, mais vous ne pouvez pas lui poser de questions, il ne va pas vous donner de réponse. Vous ne pouvez pas l'inviter à une émission, il va refuser. Il a même démontré la dernière fois quand l'histoire de la Constitution est arrivée. Mais il faut faire le débat, donner l'avis contraire à ce qui se passe. Je crois que ce n'est que de cette manière
qu'on pourra... Merci beaucoup Eric. Oui, rapidement, Jean-Baptiste.
Quand vous donnez votre avis contraire et on ne vous écoute pas, je ne pense pas que votre... Comment l'appelle-t-on?
Tu veux me répondre?
Non, c'est pas un débat.
Tu veux me répondre?
On va rapidement.
Je crois que, nous avons écouté nos auditeurs qui ont aussi exprimé leur opinion. Mais je crois que l'alternance fait partie des principes de la démocratie. Même si nous disons que quand quelqu'un vient au pouvoir, ce n'est pas évident qu'il fasse le développement, mais au moins il y a une sorte d'émulation qui va exister entre un nouveau président et un ancien président. Donc, aujourd'hui, si l'alternance fait problème au Togo, je crois que les acteurs qui sont au pouvoir et les acteurs politiques doivent se poser mille et une questions. Pourquoi l'alternance n'arrive pas au Togo? La question reste posée. Et au-delà de ça, de ces acteurs, les institutions aussi doivent jouer leur partition parce que aujourd'hui nous sommes à un tournant de l'histoire. les institutions qui sont souvent en charge des élections, leur partition, est-ce que cela est joué pleinement? La question reste posée. D'accord. Si les acteurs qui participent aux élections, qui font des griefs, et que ces griefs ne sont pas pris en compte, je crois que le jeu démocratique n'aura pas sa place au Togo.
D'accord. Merci beaucoup, Jean-Baptiste, d'être passé alors dans cette émission. Adam Adronou, merci à toi d'être passé aussi dans cette émission. Eric Johnson, merci d'avoir répondu à notre invitation et merci d'avoir contribué à ce débat à travers toute votre réflexion. Merci. Merci à vous tous qui nous avez suivis, puisque nous sommes à la fin de cette émission. Merci à Thomas Ité d'ATV qui a assuré la mise en onde. Jérôme Dakouta a assuré la mise en ligne. Moi, c'est Pascal Lossou. Je vous retrouve déjà demain à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. Au revoir.
Canal FM.